Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour l'émission hebdomadaire Une heure en Palestine. Ce soir, c'est Pierre Stamboul de l'Union juive française pour la paix. Vous allez excuser à la fois ma voix caverneuse et mes éternuements réguliers parce que je tiens une rhino pas possible, mais par le micro, ça ne devrait pas trop se transmettre. Je vais commencer, c'est un petit peu exceptionnel. Par vous parler des attaques contre le mouvement de solidarité et en particulier contre l'Union juive française pour la paix. Parce que vous savez sans doute que depuis le 7 octobre 2023, ce sont des centaines de plaintes qui ont été déposées pour apologie du terrorisme, pour discrimination en raison de la race ou de la religion. Et la plupart du temps, ces plaintes ont été déposées contre des gens tout à fait par hasard, jeunes et arabes. Moi-même, je vais être bientôt témoin pour la troisième fois pour un de ces jeunes qui sont bien sûr accusés de soutien au terrorisme, antisémitisme, etc. Mais il y a du nouveau, c'est que les plaintes visent maintenant des associations ou des personnalités. Alors les associations, bien sûr, la plus gravement menacée, c'est Urgence Palestine, qui est deux fois le gouvernement, enfin très exactement le ministre de l'Intérieur, a voulu dissoudre Urgence Palestine. Deux fois, ils ont reculé parce que visiblement, leur dossier avait du mal à passer, mais ils sont passés autrement. Omar Al-Soumi, qui est un des animateurs d'Urgence Palestine, a vu tout son compte bancaire bloqué et donc devenu inutilisable. Et donc, c'est d'une autre façon qu'ils essaient d'étrangler Urgence Palestine. Mais fin février, il y aura le procès d'Olivia Zemmour, qui est la dirigeante d'Euro-Palestine. Je serai un des quatre témoins de la défense. Là aussi, les raisons pour lesquelles elle est poursuivie sont assez abracadabrantesques, tout simplement parce qu'elle s'est réjouie, elle ne devait pas être la seule, du fait que le 7 octobre, alors qu'on ne savait pas grand-chose, c'était avant tout une sortie de la cage pour les plus de 2 millions de Palestiniens qui vivaient dans une cage à ciel fermé. Fin juin, il y aura le procès d'Anas Kazib, dirigeant de Révolution Permanente. Je serai là aussi un des témoins de la défense. Et c'est encore une fois un procès à peu près semblable, cette fois-ci contre une organisation politique. Et puis, bien évidemment, il fallait que ça arrive sur l'UJFP. L'idée que, parce que nous sommes une association juive, nous serions protégés, est une idée fausse. Alors ça a commencé avec une convocation de notre webmaster au commissariat. Il a refusé de répondre. La deuxième fois, il a accepté de répondre en présence de notre avocate pour expliquer. Alors c'est quand même assez abracadabrantesque là aussi. Nous sommes poursuivis pour le communiqué de l'UJFP le 7 octobre 2023 qui disait « résister à l'occupation est légitime ». J'ai déjà dû vous dire que mon père a été le seul survivant des 67 membres du groupe Manouchian qui ont été arrêtés par la police française, torturés par la police française, puis remis à la Gestapo. Tous sont morts, sauf mon père qui a été déporté à Buchenwald. Manouchian a été envoyé au Panthéon. Et donc c'est assez ahurissant que le même régime qui envoie Manouchian au Panthéon va poursuivre une association juive qui a osé écrire « Résister à l'occupation est légitime ». On comprend bien l'instrumentalisation absolument éhontée qui est faite du souvenir du judéocide. Et ça ne s'est pas arrêté là. Une nouvelle officine sioniste qui a un joli nom, elle s'appelle Le Char. C'est Comité contre la haine, l'antisémitisme et le racisme. Vous pensez bien qu'ils sont à la fois pour la haine, pour l'antisémitisme et pour le racisme. Ils ont porté plainte contre nous et le PNAT, le parquet national antiterroriste, suit. Ce qui est fou, c'est que le journal Le Point a été mis au courant, mais pas nous. Donc apparemment, le parquet national antiterroriste instruit pour voir si nous sommes vraiment des très grands méchants. Mais Le Point a sorti hier un long article contre l'UJFP, qui est un tissu de diffamation et d'affirmation à charge, et dont le but est de dire l'UJFP soutient le terrorisme. Sont ciblés particulièrement là-dedans, moi-même, et avec Sarah Katz, la conférence que nous avons faite en mai dernier, à l'invitation d'écologistes, c'était la foire Biocibelle, et ceux qui nous invitaient, c'était Nature et Progrès. Et justement, dans une foire où passent des milliers de personnes, ils avaient estimé utile que nous animions un atelier qui s'appelait « Cultiver sous les bombes à Gaza ». Et donc, ils faisaient le lien entre les problèmes des agriculteurs en France et les problèmes des agriculteurs à Gaza avant le génocide et depuis le génocide. Et évidemment, ça n'a pas plu. On sait que l'offensive est partie de l'extrême droite locale dans la ville de Groslay, dans le Tarn, où se passait cette conférence. Ils ont essayé de faire interdire la conférence. Ils n'y sont pas arrivés. Et ça aboutit à la plainte du Char et à l'article du Point. Alors tout y passe là-dedans, que j'ai abrité une terroriste, Mariam Aboudaka, puisque le FPLP est terroriste. J'ai bien abrité Mariam Aboudaka. Je lui ai même traduit, quand elle reçoit son premier avis d'expulsion de M. Darmanin, le fait qu'elle a été accusée littéralement de l'attentat d'Arras, le fait que le FPLP soit déclaré association terroriste par l'Europe. Faut-il rappeler que le FLN algérien était déclaré association terroriste, que le FNL vietnamien était déclaré association terroriste, que l'ANC de Nelson Mandela était déclaré association terroriste et le groupe Manouchian était déclaré armée du crime. Les occupants ont toujours déclaré terroristes les résistants et évidemment le FPLP est un des partis de la résistance palestinienne. Mais les choses ont continué. J'ai été décrit comme étant un agent du Hamas. Alors pourquoi ? Parce que nous avons écrit dans un livre qui date de 2016, Chronique de Gaza, Sarah Katz et moi-même, que nous avons rencontré les dirigeants de tous les partis politiques à Gaza, y compris le Hamas, y compris le djihad islamique, y compris le Fatah, y compris le FPLP, y compris le Parti communiste, y compris l'Union démocratique palestinienne. Mais bref, évidemment, pour les sionistes, palestiniens égale terroristes, et tous les partis palestiniens sont déclarés terroristes. Les nazis ne faisaient pas autrement en déclarant que tous les résistants étaient des terroristes. On a également dit à un moment donné que les paysans de la bande de Gaza, qui nous avaient demandé de financer une maison des paysans parce qu'ils voulaient être indépendants des partis politiques, ils sont un peu une aile dégagiste de la société palestinienne, ils avaient intitulé cette maison des paysans « Quartier général UJFP ». Donc nous sommes accusés d'héberger un quartier général du terrorisme, ce qui dit un petit peu l'intelligence de ceux qui nous accusent. Et puis les accusations ont continué contre notre représentant à Gaza, Abou Amir, qui est qualifié d'homme du Hamas. N'importe qui peut lire quotidiennement sur le site de l'UJFP depuis maintenant plus de 2 ans, les chroniques envoient Abou Amir. Abou Amir envoie des comptes rendus de toutes les actions faites avec l'UJFP là-bas, et il envoie ses propres opinions politiques. Il décrit le cri de la population de Gaza face à l'abandon de la communauté internationale, et il décrit le fait que les partis politiques ne conviennent pas et n'aident pas le peuple palestinien. Il a eu dans certains de ses textes des propos très durs contre tous les partis et en particulier contre le Hamas. Voilà, donc vous pourrez lire incessamment sous peu un communiqué de l'UJFP qui a d'ores et déjà obtenu le soutien de députés, de sénateurs, de personnalités, du fondateur de la foire Biocibel et d'un certain nombre d'associations. Et ça veut dire qu'à un moment où il n'est plus possible de nier le génocide à Gaza, à un moment où l'armée israélienne elle-même vient de reconnaître que le chiffre que le Hamas donnait, enfin pas le Hamas, le gouvernement de Gaza, donnait quotidiennement d'environ 72 000 corps identifiés et retrouvés, ce qui veut dire probablement 250 000 morts, parce qu'il y a tous les disparus, tous ceux qui sont en train de mourir, tous ceux qui ne seront pas soignés, etc. En tout cas, le chiffre de 72 000 morts a été confirmé par l'armée israélienne, et c'est le moment où toutes les officines essaient à tout prix de criminaliser le mouvement de solidarité. Ça arrive aussi à un moment où va passer incessamment sous peu au Parlement la proposition de loi de Caroline Yadan, très exactement la proposition de loi Yadan, François Hollande et Jérôme Guedj. Parce qu'il faut rendre à César tout ce qu'il faut rendre à César. Et donc le rejet de cette loi est absolument indispensable parce qu'on est en train d'arriver dans une époque macartiste où, comme aux États-Unis, il sera interdit de s'exprimer. Avant de parler de l'action de l'Union juive française pour la paix à Gaza, je voudrais faire un peu un bilan de tout ce qui vient de se passer en 2 ans et demi. Je vous ai dit, c'est probablement 10% de la population qui est morte, et il y a pu y avoir ça, parce que dès le départ, les Palestiniens ont été qualifiés d'animaux humains. Dès le départ, des dirigeants israéliens et des dirigeants sionistes dans d'autres pays ont déclaré qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza. Le grand rabbin Corsia en France a dit qu'Israël devait finir le travail à Gaza. On a eu des interdictions systématiques de toutes les manifestations pour la Palestine. Des villes comme Paris qui ont décoré la tour Eiffel aux couleurs d'Israël. Et donc c'est la criminalisation de la solidarité avec la Palestine qui a permis l'ampleur de ce massacre. Ce massacre s'accompagne de destruction, mais il faut comprendre ce qu'on appelle destruction. Environ 80% des bâtiments de Gaza ont été partiellement ou totalement détruits et sont en tout cas inhabitables. Et même si aujourd'hui, des gens y sont retournés, ils habitent dans des ruines. La quasi-totalité des hôpitaux ont été partiellement ou totalement détruits. Les quelques hôpitaux qui continuent de fonctionner fonctionnent avec 20-30% de leurs moyens, pas plus, avec un manque total de matériel, y compris des matériels les plus immédiats pour que les gens survivent. Par exemple, tout ce qu'il faut pour les dialyser. Donc c'est comme ça aussi que les gens continuent de mourir, les produits anesthésiques. Les journalistes, Israël continue d'interdire aux journalistes internationaux d'arriver à Gaza, alors qu'il y aurait évidemment les images et toutes les preuves de tous les crimes contre l'humanité qui ont été commis là-bas. Et Israël a tué plus de journalistes à Gaza en 2 ans et demi que l'ensemble des journalistes qui ont été tués dans le monde entier pendant le XXe siècle. Les Israéliens se sont acharnés sur tout ce qui pouvait rester de l'appareil productif. Ils ont détruit systématiquement les serres, les puits, les bateaux, les petites fabriques pour faire du carton, les centrales d'épuration des eaux. Et donc, ils ont provoqué une situation où même la survie simple manque de matériel et manque de moyens de façon totalement évidente. En pleine famine organisée par Israël, il faut rappeler qu'ils ont interdit à partir du mois de mars 2025 toute entrée de produits alimentaires. Ils ont déclenché une famine terrible. Il y a un assez grand nombre de personnes qui sont mortes de faim. 2200 Palestiniens, en majorité des enfants, ont été mitraillés à mort en allant chercher de la nourriture qui était gardée par une espèce de milice israélo-américaine issue de la mafia qui délivrait les seuls vivres qu'on pouvait trouver. Aujourd'hui, il reste environ 2 millions d'habitants à Gaza et plus de 50% vivent sous les tentes. Alors bien sûr, les tentes se sont organisées, elles se sont structurées, elles se sont donné des noms, elles ont organisé la survie, la nourriture, et je vais vous montrer avec les actions de l'UJFP qu'elles ont pu organiser un petit peu plus, mais évidemment, ce sont des conditions extrêmement précaires, et dès qu'il y a des pluies ou au contraire des chaleurs absolument terribles, vivre sous la tente devient un véritable enfer. Et les autres sont retournés dans ce qui peut encore être habitable, et dans 70% des cas, c'est inhabitable, mais les gens préfèrent habiter dans les ruines de ce qu'ont été leur maison ou leur appartement plutôt que de camper. On va faire passer un premier morceau de musique que je vous commenterai.
القدس القدس Jérusalem comment il cru pouvoir tuer notre histoire القدس القدس Jérusalem terre sacrifiée terre sacrée terre que j'aime يعتقدوا قتلي قسوتنا تخيلوا تحتمي حلمنا انهم سينسوني رايحة حبي قدسي 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 مدينة سماوية تناور ليالي من أجل الرجوع إلى بيتنا أهدي حياتي أهدي روحي قدسي 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 القدس القدس جيروزاليم Comment-il cru pouvoir tuer notre histoire Al-Quds, Al-Quds, Jérusalem Terre sacrifiée, terre sacrée, terre que j'aime Ils ont cru pouvoir tuer notre histoire, briser notre rêve. Ils ont cru pouvoir me faire oublier le doux parfum de tes lèvres. Ils m'ont éloigné de toi, ils ont voulu que je t'abandonne, que j'abandonne le souvenir de ces heures où je caressais ton sol. Ils ont dressé ce mur entre nous pour ne plus que je m'obstine à vouloir poser mon regard sur le flanc de tes collines. Si t'es à la beauté divine, tu illumines toutes mes nuits. Quds, Quds, Quds. Al-Quds, Al-Quds, Jérusalem. Comment il cru pouvoir tuer notre histoire? Al-Quds, Al-Quds, Jérusalem. Terre sacrifiée, terre sacrée. أبعدوني بعدوني عن عمري نصبوا هذا الجدار بيننا لكي ينسى جمالك يا قدسي أركع أمامك كما في الأحلام ليقابلك قبلة السلام على أرضنا ستعود الحمامة وتعيش في أمن وسلام القدس القدس Jérusalem Comment il peut pouvoir tuer notre histoire Al-Quds, Al-Quds Jérusalem Terre sacrifiée, terre sacrée, terre que j'aime
Voilà, c'était HK et les Saltimbanques. Et on est très content de savoir quand même qu'à un moment où l'espace médiatique se déshonore totalement en étant complice de l'innommable en cours, il y a des personnalités du monde artistique, sportive et tout, qui sont restées propres sur eux. Donc voilà, HK, moi je la trouve très belle cette chanson. Évidemment, elle parle de Jérusalem et ça m'évoque quelque chose d'immédiat. Quand on est à Gaza en 2016 et qu'on demande aux gens comment tu vois l'avenir, il y a plein de gens qui disent j'ai qu'un seul rêve, c'est pouvoir passer quelques minutes à Jérusalem. Ils ne sont pas sortis de la cage depuis maintenant plus de 20 ans. Et nous, quand on est sortis de Gaza et qu'on a pris le taxi, 3 heures après, on était à Jérusalem. Donc, ne jamais oublier cette réalité-là. Je vais vous parler de l'UJFP et de Gaza. Tout a commencé, en fait, en 2011, quand les premiers solidaires arrivent à Gaza. Et même l'un d'entre eux, Vittorio Arrigoni, est arrivé par la mer. Et commencent donc des actions de soutien à la société civile. Moi, je viens pour la première fois à Gaza en 2013. Sarah Katz s'y était depuis 2 ans. Et on va y retourner. Elle va quitter Gaza en 2014, un peu avant bordure protectrice. Et on va retourner à Gaza en 2016. Et là, c'est le Mokhtar de Houza, un village du sud-est de la bande de Gaza, qui est désespéré que... Il n'a pas pu obtenir des autorités de Gaza une permission d'avoir un peu plus d'électricité pour sauver sa récolte de melon. Et il nous dit, si la solidarité a un sens, faites quelque chose. Nous ne savions pas quoi faire. L'UJFP est une association politique, ce n'est pas une association humanitaire. Mais on a improvisé. On a réussi en un temps très rapide à collecter plus de 20 000 euros. On a réussi, avec des procédés très bricolés, à les envoyer à Gaza. Et ils ont construit le château d'eau et ils l'ont appelé, ils ont mis UJFP en haut de ce château d'eau qui sera détruit par les Israéliens début 2024. Et puis, il y a eu des tas de projets que nous ont demandé les paysans de la bande de Gaza. On les a financés. On a essayé de maintenir sans arrêt une forme de solidarité non coloniale, c'est-à-dire que les actions nécessaires et possibles étaient discutées ensemble, par eux et par nous, et nous nous chargions de collecter les fonds, de les envoyer, de populariser les actions, et eux ont choisi dès le début de nous envoyer toutes les informations par texte, par vidéo, sur ce qui était réalisé. Il y a eu, en plusieurs années, le château d'eau, les canalisations, la maison des paysans, la subvention du prix de l'eau. Et on s'est associé à Humanitaire, qui avait succédé au CBSP, Comité de bienfaisance et de secours des Palestiniens, qui avait plus d'argent que nous, mais moins de savoir-faire. Et avec eux, on a pu construire, ils ont pu construire la pépinière solidaire qui alimentait un millier de fermes de Gaza la veille du 7 octobre. On a pu acheter une voiture qui a été marquée Union juive française pour la paix sur le capot et qui sillonnait Gaza avec un agronome. Tout ça, évidemment, est parti en fumée très, très rapidement après le 7 octobre. Et donc, qu'est-ce que nous allions pouvoir faire ? À partir de décembre 2023, nous avons monté une nouvelle collecte, Urgence Guerre à Gaza. Le mouvement de solidarité a répondu d'une façon extraordinaire, qui dépassait totalement toutes les limites de ce qu'on avait pu obtenir comme solidarité jusque-là. Il fallait envoyer cet argent à Gaza. On a rusé, on a utilisé différents moyens qui ont changé à plusieurs reprises. Et ça nous a évidemment coûté la fermeture de notre compte par le crédit coopératif. Mais je vous rassure, et je rassure tous les auditeurs, et je les incite à aller sur le site de l'UJFP. Nous avons surmonté cette difficulté. L'argent collecté qui continue d'arriver de la part de particuliers et de la part d'associations de façon très, très forte. Cet argent continue à arriver à Gaza et surtout, tous les jours, vous avez le compte-rendu de ce qui est fait avec cet argent. Alors, le point nous accusait de ce que notre logo figurait à Gaza. Cette bande d'incultes ne sait pas qu'en Palestine, quand des actions ont lieu, des actions de solidarité ont lieu partout, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, on met le logo de l'association donatrice. Alors, quelles sont les actions permanentes que nous menons maintenant depuis plus de 2 ans ? C'est avant tout des repas hebdomadaires, 3 repas hebdomadaires pour plusieurs camps, qui sont principalement les camps des familles des paysans de Rouza. Ça représente plusieurs milliers de personnes et ça leur assure une nourriture saine parce que sinon c'est bricolé et c'est souvent insuffisant, au moins 3 fois par semaine. Donc ça, vous verrez sur le site de l'UJFP ces grandes marmites collectives, cette distribution. Et ben, faut savoir que c'est une population qui souvent dépendait de l'UNRWA et puis l'UNRWA ne peut plus être en action. Et donc, ce sont des choses extrêmement importantes. Alors, ça ne se passe pas dans tous les camps, mais ça se passe dans beaucoup de camps qui ont trouvé quelque part un organisme qui peut, au moins à un moment donné, nourrir la population. La deuxième action extrêmement importante, c'est sur l'éducation. Vous avez vu qu'en l'été dernier, il y a eu des élèves à Gaza qui ont eu le baccalauréat par correspondance, voire plus des diplômes universitaires par correspondance. L'UJFP, c'est surtout notre équipe à Gaza, s'est occupée de la scolarisation des enfants. Alors, on n'avait pas les moyens de tout faire, mais on a pu scolariser plusieurs milliers d'enfants de différents camps jusqu'à 13 ans. Alors, comment on a fait ? Ce qu'il fallait, c'était assurer des locaux et des professeurs qu'on pouvait payer parce qu'ils n'étaient plus payés pour faire ce travail-là. Notre représentant à Gaza, Abou Amir, nous disait on ne peut pas accepter que nos enfants deviennent des ânes. On a ensuite instauré, et là pour un très grand nombre de personnes, l'aide psychologique. Alors bien sûr, ça ne ressemble pas à une psychanalyse à la française. Ce serait même des méthodes un peu comportementaliste, mais il faut savoir qu'à Gaza, les psychologues sont nombreux. Ils ont 5 ans de formation. On en avait rencontré en 2016, notamment des psychologues bénévoles de l'hôpital Al-Aqsa. Et c'est fondamental, parce que s'ils n'étaient pas là, la population, et en particulier les femmes qui font tenir les familles, qui font tenir les enfants, sont indispensables, et c'est elles qui sont le plus demandeurs de l'aide psychologique. On a même pu construire, parce que jusqu'à présent l'aide psychologique était en tente, on a même pu construire à Deir el-Balah un local en dur qui sert en grande partie pour cette aide psychologique, qui sert aussi à... On a trouvé des machines à coudre, à ce que des femmes puissent apprendre à tisser, puissent tisser, parce qu'il n'y a rien qui rentre à Gaza. Donc tout ce qui peut être fait localement est quelque chose d'important. Et la quatrième activité, c'est le redémarrage de l'agriculture là où c'est possible. Les paysans ont tenté de faire redémarrer l'agriculture de là où ils avaient été chassés au moment de la trêve. Et ils avaient même réussi à récupérer le conduit du château d'eau et à remplir une espèce de citerne pour recommencer à irriguer. Les Israéliens ont grièvement blessé deux paysans et ont redétruit la citerne. Et donc là-bas, dans le sud-est de la bande de Gaza, c'est impossible. Mais dans la zone où la population est concentrée, Deir el-Balah Nusayrat, il reste quelques serres qu'il faut réhabiliter, où il faut réaménager les puits. Il faut trouver des pompes pour pouvoir tirer de l'eau, ou il faut désaliniser cette eau. Alors ça, nous l'avons financé. Et les paysans, qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont d'autres paysans, ont promis en contrepartie que les légumes qui étaient produits, qui sont majoritairement des tomates, seraient vendus à prix coûtant. En pleine famine à Gaza, les prix des produits agricoles avaient totalement explosé. Dans toute situation de cette sorte, le marché noir et les profiteurs de guerre, ça existe. Et donc, on en était arrivé à plus de 10 euros le kilo de tomates. Et on est arrivé maintenant à faire baisser les prix de façon drastique. Ce qui fait que quand les gens arrivent à avoir un petit peu d'argent, ils arrivent à pouvoir se nourrir pour le moins de légumes. Bien sûr, l'argent qu'on a pu collecter a aussi servi dans toutes les situations d'urgence. Il a fallu à un certain moment, notamment en 2024, les camps étaient infestés par les ravageurs. Il a fallu les désinfecter, tuer les moustiques et les rats qui avaient envahi les camps. C'était très difficile, il fallait trouver des produits chlorés. On a fait une espèce de collecte spécifique pour arriver à les trouver, c'était compliqué. On a réussi à en trouver et on a réussi à désinfecter ces camps. Il a fallu aussi répondre aux intempéries, parce que les tentes sont gravement endommagées l'été par des chaleurs qui atteignent 50 degrés, et l'hiver par le froid et par des pluies incessantes. Il y a eu deux épisodes particulièrement tragiques cet hiver d'inondations à Gaza. On peut penser maintenant que la saison des pluies est en train de diminuer, mais il y a eu des inondations de tentes. Il a fallu en urgence pouvoir soit trouver des nouvelles tentes, il n'y en a quasiment plus, soit pouvoir acheter des kilomètres de bâches pour essayer de réparer. Mais voilà, il faut savoir que la vie à Gaza, ce n'est pas une vie, c'est une survie. Et bah, nous essayons de faire, évidemment, pour un nombre infime de personnes par rapport à la population de Gaza, mais c'est une organisation juive qui le fait, donc ça a aussi tout à fait un sens sur la question de l'antisémitisme. Et les Gazaouis savent que UJFP, ce sont des juifs antisionistes français. Et ça, c'est un pari sur l'avenir. On va passer une nouvelle musique et je vous parlerai après du plan Trump.
مأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم
أناديكم أشد على
Voilà, c'est un grand classique de la musique de la résistance palestinienne. La première fois que je viens à Gaza en 2013, c'est l'association Unadikoum, cofondée à Gaza par Manu Pineda, qui sera plus tard député européen du Parti communiste espagnol, et par Sarah Katz, qui m'accueille. Et aujourd'hui, l'association Unadikoum continue d'exister en Espagne et continue ses actions de solidarité avec la Palestine. Et nous travaillons évidemment la main dans la main. Je vais vous parler du plan Trump. C'est en septembre dernier que Trump annonce un plan, comme il a l'habitude de le faire, en expliquant qu'il espère bien le prix Nobel de la paix. Donc on peut se demander bien sûr comment le co-auteur du génocide peut avoir le prix Nobel de la paix. C'est son clone vénézuélien qui l'a eu à sa place. Mais ce plan, quand il va être promulgué, quand même, on est surpris sur plusieurs choses. Mais on va essayer de comprendre. D'abord, Israël l'accepte, mais ça avait été négocié avant. C'est-à-dire que Trump avait par avance permis à Netanyahou toutes les violations du plan qui vont avoir lieu. Mais le plan est accepté par les combattants palestiniens. Là, il faut comprendre, la détresse de la population palestinienne était telle qu'il aurait été impossible de refuser. C'est-à-dire que la population civile n'en pouvait pas. Il y avait tous les jours des centaines de morts, ça devenait impossible. Les Palestiniens ont quand même obtenu quelque chose de tangible, une seule chose de tangible, j'ai envie de dire, c'est la libération de 2000 prisonniers, dont 250 prisonniers à vie. Les prisonniers emblématiques, Marwan Barghouti, Ahmed Sadat, le secrétaire général du FPLP, ou le docteur Abou Safia, qui était le directeur de l'hôpital Kamal Adwan, qui a été kidnappés, n'ont pas été libérés. Mais il y a quand même eu des prisonniers à vie libérés. Et il y en a un pour lequel j'ai une petite pensée, parce que c'était le chef de la branche armée du FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, donc un mouvement nationaliste et marxiste. Or, ce dirigeant de la branche armée, qui avait encore de nombreuses années de prison à faire, c'est un Samaritain. Les Samaritains, c'est une dissidence du judaïsme qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui sont des Palestiniens de religion juive. Et c'est assez symbolique que le FPLP ait eu comme dirigeant de sa branche armée un Samaritain, et il a été libéré. Marie Géniès a fait un film sur les prisonniers en Israël, les prisonniers palestiniens, et elle a pris symboliquement un musulman, un chrétien, un juif, et en fait le juif c'est un Samaritain aussi, un autre Samaritain qui a fait de nombreuses années de prison pour ses actions de résistance. Mais surtout, le fait que l'autorité palestinienne, dont plus personne ne doute que ce sont des collabos, quand j'étais en Cisjordanie, les gens me disaient « Vous avez eu votre PETA, nous avons le nôtre », ou disaient « Nous aurions aimé avoir un seul ennemi et pas deux », l'autorité palestinienne s'est précipitée sur le plan Trump en essayant de renaître de ses cendres. Ça a quand même eu une conséquence terrible, c'est que jusque-là, Trump n'en avait strictement rien à cirer de ce qui pouvait rester du droit international et de l'ONU. Et là, le plan Trump a été adopté par le Conseil de sécurité avec le vote de l'Algérie et avec l'abstention de la Russie et de la Chine. Alors on pourra épiloguer là-dessus, mais ça veut dire en tout cas que l'idée qu'il y aurait un rapport de force faisant que ce qui peut rester du droit international soit un contre-pouvoir à l'impérialisme fou furieux dévorant le monde, ben ça n'existe pas. Trump peut absolument faire ce qu'il veut et peut pour l'instant faire légaliser les pires horreurs qu'il a faites. Alors, dans ce plan Trump, il y avait des choses qui a priori étaient alléchantes, et dans la foulée, il a créé un conseil de la paix, c'est encore de la novlangue. Alors ce conseil de la paix, il faut $1 milliard pour y adhérer. Je suppose qu'il a dû faire des réductions parce qu'il a quand même trouvé 22 pays pour y adhérer. Alors qu'on trouve là-dedans Israël n'est pas étonnant, qu'on trouve là-dedans les États féodaux du Golfe, Arabie Saoudite ou Émirats Arabes Unis ou Maroc, qui n'est pas dans le Golfe, mais qui est quand même un État féodal, qui a signé les accords d'Abraham, n'a rien d'étonnant. Peut-être plus étonnant, c'est qu'on trouve des pays, l'Albanie, dont on ne comprend pas très bien ce qu'elle fait là. On y trouve l'Indonésie, qui est un pays musulman, et on sait qu'il y a un plan pour que un certain nombre de Gazaouis expulsés aillent en Indonésie. On y trouve la Turquie, dont certains veulent s'acharner à dire qu'elle soutient la résistance, mais enfin, jusqu'à présent, elle ne la soutient pas. Je peux rappeler que quand j'étais à Gaza, il y avait sur le port de Gaza un monument pour les victimes turques du Mavi Marmara, 10 Turcs tués dans les eaux internationales par Israël en 2010 sur le ferryboat Mavi Marmara, qui faisait partie de la flottille de la liberté. Et tous les ans, les officiels turcs venaient faire une cérémonie. Et à la fin, les Gazaouis leur ont dit « Venez plus ». Parce que si vous venez et que vous maintenez des relations militaires et économiques avec Israël, ce n'est pas la peine. Or, une partie du pétrole que reçoit Israël transite par la Turquie, et la coopération politique, malgré les engueulades officielles, ne s'est jamais véritablement arrêtée. Donc la Turquie participe à ce plan Trump. Alors là-dedans, il faut comprendre que le plan Trump, c'est la prolongation d'une dépossession de la Palestine qui dure maintenant depuis plus d'un siècle. On peut retracer un petit peu l'historique de cette dépossession. En 1917, les Britanniques font la déclaration Balfour qui donne à, comment il disait, Arthur Koestler, une nation a promis à une deuxième le territoire d'une troisième qu'elle ne possédait pas. C'est à peu près ça quand les Britanniques proposent aux sionistes un territoire qu'ils n'ont pas conquis et qui appartenait aux Palestiniens. En 1920, la Société des Nations a donné le mandat à la Grande-Bretagne sur la Palestine, avec la mention que les Palestiniens, enfin on ne disait pas les Palestiniens, on disait les Arabes, étaient un peuple mineur et que la mission du colonisateur était de les amener à la maturité. Et puis, en 1947, l'ONU a voté le plan de partage de la Palestine, qui est un véritable acte de piraterie. Et je rappelle que l'ONU est responsable de la moitié de la Nakba, puisque entre le vote du plan de partage, novembre 1947, et la proclamation de l'État d'Israël, mai 1948, 400 000 Palestiniens, la quasi-totalité de ceux qui habitaient le futur État juif, avaient déjà été expulsés. Et puis, en 1949, l'ONU intègre Israël en son sein avec une déclaration abracadabrantesque affirmant que Israël est un État peace lover qui respecte le droit international, alors qu'Israël vient de piétiner la résolution 194 sur le retour des réfugiés palestiniens et a entrepris de détruire méthodiquement les villes et les villages palestiniens pour effacer la trace de la Palestine. Et puis il y a 1982 où l'ONU déclare qu'Israël, non pas 1982, 1967, c'est la résolution 282, où l'ONU déclare qu'Israël doit évacuer les territoires nouvellement conquis, la Cisjordanie et Gaza, mais ne propose aucune sanction. Et vous voyez que cette déclaration a eu lieu il y a 59 ans maintenant et n'a eu aucune suite. Et donc le plan Trump, en gros, il dit bah, les Palestiniens, ils ont pas le, on connaît pas, c'est nous qui allons décider pour eux. Et donc déjà, les personnalités permanentes dans ce Conseil de la paix, c'est cinq hommes de l'entourage de Trump, les bandits, là, Witkoff, Jared Kushner, etc. C'est Tony Blair, l'homme qui avait envoyé les troupes britanniques en Irak, parce que, paraît-il, il y avait des armes de destruction massive. Ça a causé des centaines de milliers de morts en Irak. Et maintenant, il n'y a pas un Irak, il y en a trois, puisque la zone kurde est autonome et qu'il y a des guerres qui continuent entre sunnites et chiites en Irak. Et donc, il y a ça. Ils ont donné un poste un sous-ministre de l'autorité palestinienne, mais enfin qui est là pour faire pour apparaître dans le tableau, mais qui n'a strictement aucun pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Palestine ? D'abord, il y a une ligne jaune que les Israéliens ont créée qui coupe la Cisjordanie, qui coupe la bande de Gaza en deux dans le sens nord-sud, et plus de 50% de cette zone qui est à l'est de la ligne jaune, est en train d'être vidé systématiquement de sa population. C'est-à-dire que les 2 millions de Gazaouis qui restent vont être entassés sur une portion beaucoup plus petite que les 365 km² de la bande de Gaza. Il y a les morts incessants. On en est à plusieurs centaines de morts depuis le cessez-le-feu et ça continue. Et ça continue de façon systématique, y compris contre les tentes. Et nous-mêmes, parmi les personnes avec lesquelles nous travaillons, Madeleine, qui est la seule femme pêcheur de Gaza, qui a donné son nom à une des flottilles, son mari a été grièvement blessé dans une de ces attaques. Donc on comprend bien que les attaques n'ont pas cessé. Netanyahou a carte blanche. Et donc, bien entendu, ce qu'il veut à Gaza, c'est ni témoin, ni personnel non contrôlé. Et donc, 37 ONG qui travaillent en Palestine se sont vues menacées d'interdiction L'une est déjà complètement interdite, c'est Médecins sans frontières, parce que ces 37 organisations, Israël exige d'avoir les noms de tous les personnels palestiniens qu'ils peuvent utiliser. On peut rappeler qu'ils ont déjà utilisé ça contre l'UNRWA et que l'inénarrable Macron, après que Netanyahou ait déclaré que l'UNRWA était une organisation terroriste, Macron avait coupé les vivres de l'UNRWA. Le maire de Marseille, ce cher Benoît Payan, avait fait de même pour répondre à Israël qui accusait 12 membres de l'UNRWA sur 15 000 d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre 2023. Donc Israël s'en prend à toutes les organisations, toutes les ONG. C'est gravissime parce que ça veut dire que l'envoi de l'aide qui est déjà assez insuffisant, il rentre un peu plus de camions que précédemment, mais c'est encore très insuffisant. La distribution de l'aide va être confiée à nouveau à des organisations mafieuses liées soit à Trump, soit à Netanyahou, et on comprend ce que ça veut dire. Il y avait la promesse dans le plan Trump de l'ouverture de la frontière de Rafah. Cette frontière, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elle soit ouverte. Les quelques personnes qui ont pu entrer ont été, parce qu'il y a des Palestiniens qui étaient en Égypte, qui ont désiré retrouver leur famille, ont été fouillés, humiliés, maltraités pendant des heures. Et pour l'instant, il y en a très très peu aussi qui ont pu sortir. Les Israéliens préfèrent pour la sortie arranger une sortie définitive. Il y a eu l'épisode de l'Afrique du Sud où une mystérieuse organisation israélienne contre plusieurs milliers de dollars promettait à des Palestiniens de pouvoir sortir. 150 étaient sortis. Ils ont été amenés dans un aéroport du désert du Nakab ou Negev et embarqués dans un avion non immatriculé qui a atterri en Afrique du Sud. Il n'y a rien sur leur passeport qui indique qu'ils sont sortis légalement, donc ils ne pourront pas rentrer, évidemment. Et c'est une façon... Les Sud-Africains n'étaient au courant de rien. Ils ont hurlé devant le tour de passe-passe qui a été fait. On comprend bien que le projet, qui est le projet des suprémacistes israéliens de vider la bande de Gaza, continue. Mais alors voilà, il continue de quelle façon? En rendant la vie impossible, en faisant qu'il n'y ait pas d'espoir d'un retour à la normale, et que face à ce non-espoir de retour à la normale, il y ait un nombre croissant de candidatures au départ et de pays acceptant de recevoir ceux qui vont partir. Je vais ajouter qu'on parle de la reconstruction de Gaza, il en est parlé dans le plan Trump, mais c'est évidemment une reconstruction mafieuse qui se ramène quand même à ces propos ahurissants qu'avait tenu Trump sur la Riviera à Gaza. Parce que le projet de reconstruction tel qu'il est établi aujourd'hui, ce serait des villes qui n'ont rien à voir avec les villes qui ont existé. Et je signale par exemple qu'à Rafah, les Israéliens ont fait venir les bulldozers pour écrouler les derniers bâtiments qui tenaient à peine et ils ont enlevé les gravats. C'est-à-dire qu'à la place d'une partie de la ville de Rafah, il y a une dune. Donc il y aurait des villes qui n'auraient rien à voir avec l'ancienne urbanisation de la ville de Gaza, avec des rues au carré et avec des caméras partout. C'est-à-dire, c'est ça le modèle qui est prévu pour la bande de Gaza, avec ou sans ses habitants, quelque chose qui ne ressemblera évidemment plus à une ville palestinienne. Alors, l'heure tourne. Je vais terminer en disant, surtout, ne vous démobilisez pas, surtout. Toutes les actions aujourd'hui, nous n'en privilégions aucune. Il va y avoir des flottilles qui vont partir de façon unie aux alentours du début avril. On espère sans bateau. On espère que, bien sûr, on sait que la probabilité qu'il ou elle passe est faible. On sait que la violence des Israéliens vis-à-vis de celles et ceux qui vont sur ces flottilles croît. Moi, j'ai fait 4 jours avec les 1000 Madeleines qui faisaient des meetings pour glaner du soutien et de l'argent en Bretagne. Il y a énormément de soutien à cette idée d'arriver à Gaza par la mer. Donc nous, à l'UJFP, on soutient absolument tous les projets de flottille. On sait que parfois, ça coince un petit peu entre eux, mais on souhaite que dans la plus grande unité, il puisse y avoir une flottille extrêmement importante qui parte début avril. Il va y avoir une lutte acharnée contre la loi Yadan. Donc n'hésitez pas à interpeller vos députés, notamment vos députés complices. Sachez que cette loi, si elle passe, elle va nous retarder. Elle va rappeler les ennuis qu'on a eus avec la circulaire Alliot-Marie. Il a fallu des années à les gagner en Commission européenne des droits de l'homme pour la faire, pour la rendre caduque et pour enfin dire que le boycott d'Israël était quelque chose de légal. Mais la loi Yadan, en voulant évidemment assimiler antisémitisme et antisionisme, c'est une loi macartiste qui va interdire de dire l'histoire et qui va interdire de dire que l'État d'Israël s'est créé sur un génocide et sur un nettoyage ethnique prémédité, qu'en ce sens-là, il n'est pas légitime. Je dis d'ailleurs à cette occasion que nous allons publier bientôt sur le site de l'UJFP le résultat de notre Assemblée générale qui s'est tenue il y a quelques jours et que la position que nous défendons, souvent on nous pose la question, la position que nous défendons sur quelle issue à cette guerre, nous demandons la justice et le droit international pour le peuple palestinien. Ça veut dire la liberté, fin de l'occupation, fin de la colonisation, libération des prisonniers, fin du blocus de Gaza, destruction du mur. Nous demandons l'égalité des droits pour tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine ou leur identité supposée. Et nous demandons la justice, ça veut dire le retour des réfugiés palestiniens, le jugement des criminels de guerre et l'autodétermination du peuple palestinien. Nous savons et nous disons que la solution à deux États n'a aucun sens. Elle n'est ni viable ni souhaitable. Elle n'est pas souhaitable parce que le peuple palestinien est un peuple de réfugiés et que la solution à deux États ne s'adresse pas à eux. Et nous disons, notre slogan, c'est « De la mer au Jourdain, l'égalité des droits ». Donc on ne remplace pas un nettoyage ethnique par un autre nettoyage ethnique, mais on démantèle l'État juif. C'est la condition pour que tout le monde puisse vivre ensemble.